Vortex et rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Pour cette rentrée de Vortex et Rotative, on vous propose un programme un peu spécial, une nouvelle qui nous a plu, juste comme ça, sans analyse ni commentaire. Vous allez donc entendre Ceux qui restent et qui luttent de N.K. Jemisin, une nouvelle extraite du recueil Lumière Noire, paru aux éditions Nouveau Millénaire en 2018.
Ceux qui restent et qui luttent. C'est la fête des bons oiseaux dans la cité d'Umhelat. Une coutume locale, idiote et sans fondement, comme le sont tant de coutumes locales. Belle cependant pour ses raisons mêmes. Elle n'a pas grand-chose à voir avec les oiseaux, ce qui amuse les habitants car, là encore, il en va souvent ainsi des coutumes locales. Ce jour n'en est pas moins dévolu au vol et à ses battements légers. Des oriflammes de soie rouge éclatante palpitent aux fenêtres. Des drones bourdonnants délicats, fabriqués en prévision de la fête et ne volant qu'à cette occasion, flottent au vent, enchevêtrement de fils de cuivre et de verre duveteux. Jusqu'aux voitures des monorails, qui traînent dans leur sillage les plumes de flamants stylisés attachées à leur toit, elles aussi composées de verre duveteux, car les flamants véritables ne volent pas à la vitesse du son. Plusieurs espèces de papillons et d'oiseaux-mouches migrent sur un axe nord-sud passant par Umhelat, sise à la confluence de trois fleuves et d'un océan. À l'aube du jour de fête, les enfants sortent de chez eux, arborant pour la plupart les ailes confectionnées par leurs parents ou de vieilles tantines généreuses. Toutes ces tantines n'en sont pas réellement, mais il est facile d'obtenir un tantinat à Umhelat, cité où chacun peut satisfaire d'innombrables aspirations. On voit des ailes d'organza, cousues sur des sacs à dos d'écoliers, des ailes de coton matelassées, rembourrées de fleurs séchées et attachées aux épaules des vestes, des rares, très rares collages d'ailes de papillons, des insectes morts de mort naturelle, bien sûr. Ainsi embellis, les enfants capables de parcourir les rues au galop le font en effet, bondissant des trottoirs et exhalant des fchhhhs sonores en faisant mine de voler. Ceux qui en sont incapables s'installent sur des drones spéciaux. Ceinture de sécurité, barre de sécurité, vérification et contre-vérification de sécurité, qui leur permettent de caracoler en l'air en douce. Les engins ne s'élèvent que de quelques dizaines de centimètres, mais les enfants ont l'impression de monter jusqu'au ciel. Il ne s'agit toutefois pas là de quelques dystopies maladroites où chacun doit se plier à la norme. Les adultes qui refusent de renoncer aux joies de l'enfance arborent des ailes, eux aussi, quoique souvent d'une construction plus abstraite. Certaines sont invisibles. Ceux qui n'ont pas envie d'en porter ou à qui leur foi interdit d'imiter les animaux s'en abstiennent. Leur choix vaut autant de respect qu'aux explorateurs du ciel ou aux papillonneurs en personne, car sans contraste, comment apprécier les différentes formes de la joie? Ah, il y a tant de joie ici, mon ami. Des marchands ambulants vendent de minuscules gâteaux aux formes de bijoux scarabées, fourrés à la crème. Les gens, qui les ont attendus un an, les engloutissent en avalant une goulée d'air pour se rafraîchir la langue. Des artisans proposent aux passants de lancer en l'air des colibris de papier automates. Les mieux faits se brouillent dans leur vol plané. L'après-midi se prolongeant, les paysans d'Umhelat arrivent, invités, comme toujours, à partager les honneurs dont jouissent les commerçants et les technologies de la cité. C'est grâce aux efforts de ces trois catégories de citoyens qu'elles prospèrent. Mais lorsque les aquifères et les rivières sont trop bas, les paysans vont travailler la terre dans une autre zone, à moins qu'ils ne se lancent dans la riziculture et la pisciculture au lieu d'épanouiller le maïs. La gestion de la terre, de l'eau et de la chimie est un art délicat, vous le savez. À Umhelat, cet art a été raffiné. À Umhelat, la faim n'existe pas, ni pour les gens, ni pour les oiseaux migrateurs ou les papillons qui piquent vers le sol et ses nectars savoureux. Aussi célèbre-t-on tout particulièrement les paysans, le jour des bons oiseaux. Le défilé parcourt la cité. Les paysans détournent les yeux ou se mettent à rire lorsque leurs concitoyens les saluent. Ici, une femme corpulente agite le chapeau de plumes de poulet dont on lui a fait cadeau. Là, un homme très mince en salopette tripote nerveusement sa broche, une coccinelle sculptée et vernie de ses mains. Il espère ne pas être seul à la trouver belle. Il ne l'est pas. Et là, cette grande femme puissante aux bras nus, au crâne lisse et brun semé de clous d'argent, au bel uniforme de damas couleur tempête. Voyez, elle se déplace dans la foule, souriante comme ceux qui l'entourent. Elle aide un enfant tombé, elle encourage acclamations et ravissements en parlant aux gens dans une langue, puis une autre. Umhelat est une cité polyglotte. Lorsqu'elle arrive au premier rang, elle repère aussitôt la broche coccinelle, dont elle fait grand cas, les yeux et le sourire ravis. Elle montre le bijou du doigt, et d'autres le remarquent à leur tour, et l'homme filiforme rougit terriblement. Mais les visages ne trahissent que gentillesse et réel plaisir. Peu à peu, son dos se redresse, son pas se fait plus ample, il a donné du bonheur à ses concitoyens. Il n'y a pas vertu plus prisée par la coutume en cette riche et douce contrée. Le soleil de l'après-midi étire ses rayons d'or rasant sur la cité, dont les murs piquetés de mica et les estampages facettés au laser brillent de reflets scintillants. Une brise monte de l'océan, salée et minérale, si fraîche que des acclamations spontanées s'élèvent de la foule le long de la route suivie par le défilé. Les jeunes hommes, qui cuisinent sur le front de mer de grandes bassines de moules épicées ou des plats de riz et de pois, redoublent d'ardeur, car on dit, à Umhelat, que l'odeur de la mer ouvre l'appétit. Des jeunes femmes apportent au carrefour sitar, synthétiseur et gros tambour en bois, qui permettront à la foule de danser son chemin jusqu'aux jeunes hommes. Si les gens s'arrêtent, parce qu'ils ont trop chaud ou trop soif pour aller plus loin, des verres de jus de citron vert aromatisés au tamarin leur sont proposés. Les anciens en vendent dans des boutiques, mais en donnent à ceux qui en ont besoin. À Umhelat, il y a toujours des âmes en manque de musique et de tamarin. Joyeuse, la cité déborde d'une joie sereine. Il m'est facile d'en parler, mais... Ah, si difficile d'en faire une description précise, malgré mes efforts. Vous n'y croyez pas, je le vois. La tâche est difficile parce que les mots me manquent, mais aussi parce que la compréhension vous manque. Vous n'avez jamais rien vu qui ressemble à Umhelat, et je ne suis moi-même qu'une observatrice. Je n'ai pas encore eu l'honneur de visiter la ville. Je dois redoubler d'efforts pour que vous puissiez l'embrasser à mon égal. Comment éclairer votre intention du peuple d'Umhelat? Vous avez vu qu'il aime ses enfants, qu'il respecte le labeur honnête et intelligent. Peut-être avez-vous remarqué ces nombreux anciens, car j'en ai parlé au passage. À Umhelat, chacun mène une longue vie bien remplie et garde la santé tant que le permettent le destin, ses choix et la médecine. Chaque enfant a ses chances, chaque parent sa vie. Certains n'ont pas de toit, mais ils disposeraient d'un appartement s'ils le voulaient. D'ailleurs, ils ne vivent pas mal, car ici, on balaie tous les jours sous les ponts et les bancs légèrement rembourrés offrent un confort appréciable. Si le monde de ces errants est d'illusion, on les éloigne des armes et des endroits dangereux pour eux. On les empêche de se blesser ou de se rendre malades. Ou on les soigne lorsque les choses dégénèrent. Nous n'allons pas tarder à évoquer plus longuement les protecteurs. Voici donc Umhelat, une cité dont les habitants se protègent les uns les autres, tout simplement. Telle est la raison d'être d'une cité, pense-t-il. Non seulement générer de la richesse, de l'énergie, des produits, mais aussi nourrir et abriter ceux qui les génèrent. Qu'ai-je bien pu oublier? Ah, ce qui va vous paraître le plus fantastique, mon ami, la variété. Les citoyens d'Umhelat sont si nombreux et si extraordinairement divers d'aspects, d'origine, de développement. Les gens de cette contrée viennent de tant d'autres contrées. C'est évident à la nuance de leur peau, à la texture de leurs cheveux. à la rondeur de leurs lèvres et de leurs hanches. On croise, dans les rues où s'activent ouvriers et artisans, un peu plus de passants au teint sombre. Dans les couloirs de la tour des cadres, un peu plus d'employés au teint pâle. Cette situation doit davantage à l'histoire qu'à la malice, et on œuvre toujours activement à la corriger, car les habitants d'Umhelat ne sont pas des naïfs, persuadés que les bonnes intentions viennent à bout de tous les maux. Non, ils ne se trouvent pas ici d'adorateurs de la simple tolérance, ni de quémandeurs de cette once de respect rétif qu'est la diversité. Les Umhelatiens sont assez cultivés pour savoir ce qu'il faut faire afin de rendre le monde meilleur, et assez pragmatiques pour le faire réellement. Cette idée vous dérange-t-elle? Elle ne devrait pas. Le problème, c'est que nous avons une mauvaise habitude, encouragée par des gens aux mauvaises intentions. Nous insistons pour infliger à ceux qui souffrent déjà des souffrances supplémentaires inutiles. Paradoxe de la tolérance et trahison de la libre parole, nous hésitons à admettre qu'il existe de vrais salopards et qu'il faudrait les arrêter. Mais nous sommes ici à Umhelat, pas aux Amériques barbares, pas à Omelas, cité parasite, heureuse et grasse, aux yeux fermés sur l'enfant qu'elle torture. Ma description d'Umhelat constitue certes un hommage, mais vous n'avez rien à craindre, mon ami. Alors, comment Umhelat existe-t-elle? Comment une telle cité peut-elle survivre, sans parler de prospérer? Riche sans pauvreté, développé sans guerre, lieu de beauté où chacun a conscience de sa beauté? Ce n'est pas possible, dites-vous. Une utopie? Quelle banalité! Non, c'est un conte de fées, un exercice de pensée. Le panier de crabe, le loup pour l'homme, plus malheureux que moi tu meurs. Ça ne durerait pas, vous en êtes sûr? Ça ne pourrait pas exister, pour commencer. Le racisme est naturel. Si naturel que nous l'appelons tribalisme, afin d'insinuer qu'il est pratiqué dans le monde entier. Le sexisme est naturel, l'homophobie est naturelle, et l'intolérance religieuse, l'avidité, la cruauté, la sauvagerie, la peur, et... Impossible, sifflez-vous pendant que vos poings se ferment lentement le long de votre corps. Comment osez-vous? Qu'ont fait ces gens pour que vous gobiez leurs mensonges? Que me faites-vous pour insinuer que c'est possible? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Ah, mon ami, je crains de vous avoir offensé. Toutes mes excuses. Mais puis-je vous faire comprendre Umhelat autrement, alors que la seule pensée d'une société heureuse et juste provoque votre colère? J'avoue cependant ma perplexité. Pourquoi cette colère? On dirait presque que la seule idée de l'égalité vous inquiète. Qu'une part de votre être a besoin de colère, de malheur et d'injustice. Mais est-ce le cas? Est-ce le cas? Êtes-vous prêt à croire, mon ami? À accepter la fête des bons oiseaux, la cité, la joie? Non? Alors, laissez-moi vous décrire quelque chose d'autre.
Vous êtes bien à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Campus Grenoble et Radio Dragon. Aujourd'hui, on vous lit la nouvelle « Ceux qui restent et qui luttent » de N.K. Jemisin.
Vous rappelez-vous la femme? Si grande, le teint si sombre, si belle, si chauve, si aimante dans son franc plaisir, si élégante dans son gris de tempête. Ils sont nombreux à porter cette tenue et à se vouer au même but. Suivons-la, pendant qu'elle s'éloigne de la foule, parcourt les ruelles aux pavés de biofibres, s'enfonce dans les ombres. Sous un gratte-ciel qui l'évite à quelques mètres du sol, oh, il n'y a aucun danger, Umhelat maîtrise la gravité depuis maintenant plusieurs générations. Elle s'arrête. Ils sont deux à l'attendre, un guéthénien et un mâle, également vêtu de gris damas. Également chauve aussi, tête cloutée, luisante. Ils se saluent chaleureusement les uns les autres en s'étreignant lorsqu'une étreinte est bienvenue. Ce ne sont pas des gens extraordinaires. Ils font juste partie de ceux, nombreux, qui œuvrent au bonheur et à la prospérité de leurs concitoyens. Pensez-y comme à des travailleurs sociaux si vous voulez. Leur rôle est celui de tous les travailleurs sociaux, où que ce soit. Ils ont eu vent d'un cas problématique, d'où leur réunion. Ils vont en discuter et prendre une décision difficile. Oum Helat abrite des merveilles bien plus impressionnantes que quelques gratte-ciels en lévitation, voyez-vous. Entre autres, la capacité à abolir la distance qui sépare différentes possibilités, que nous pourrions qualifier d'univers. N'importe qui en est capable, mais personne ou presque n'essaie. Parce qu'une bizarrerie de l'espace-temps empêche les Oum Helatiens d'accéder à un autre monde que le nôtre. Et pourquoi un habitant de ce monde magnifique chercherait-il seulement à approcher de notre enfer ignorant ? Vous vous offusquez une fois de plus. Ah, mon ami, vous n'en avez pas le droit. Quoi qu'il en soit, il n'y a guère de danger que quiconque fasse le voyage. Oum Helat même n'a pas appris à réduire les énormes dépenses d'énergie nécessaires aux traversées à échelle macroscopique entre plans. Rien ne peut passer entre notre monde et le sien que les ondes corpusculaires, l'information. Quel intérêt ? Vous êtes distrait. Nul n'a faim ici. Nul n'est abandonné à la maladie ni ne vit dans la peur, ou presque oublié jusqu'à la guerre. En cette contrée, le luxe de la sécurité et du confort permet de s'intéresser à la connaissance pour la connaissance. Mais la connaissance se révèle parfois dangereuse. Après tout, Oum Helat a été pire autrefois. Ses habitants, si disparates par leurs origines, leurs coutumes, leurs langues, ne s'y sont pas tous réunis de leur plein gré. La cité a eu une civilisation différente, qui ne vous aurait peut-être pas autant dérangé. Mon pauvre ami, allons, allons. On trouve aux alentours des reliquats de cette époque, énormes, plus ou moins abîmés. Ici, un pont, là, un gigantesque camion. Ailleurs, en train de rouiller sur le dos, une chose au flanc incurvé que les populations d'antan avaient baptisée du nom exotique de missile. Au loin, les ruines squelettiques d'une cité morte, aussi vaste mais pas aussi belle qu'Oum Helat. Les artefacts de ce genre sont nombreux dans la région, ni plus ni moins vénérables pour les Oum Helatiens que le reste des environs. À vrai dire, ils jugent bon de rappeler leur existence aux citoyens qui atteignent la majorité, en leur racontant des histoires bien conçues sur la nature de ces vestiges et l'usage qu'on en faisait. Ces explications infligent aux jeunes un choc proche de l'incompréhension, en ce que les mots leur manquent, littéralement, pour comprendre de quoi ils retournent. Les langues qu'on parle à Oum Helat étaient autrefois les nôtres, certes, car ce monde était autrefois le nôtre. Il s'agissait alors moins d'un monde parallèle que du même. Vous en reconnaîtriez peut-être encore les langues, mais vous seriez surpris de ce qu'elles expriment, ou n'expriment pas. Oh, vous êtes familier d'une partie de ce que je raconte, conceptuellement du moins. Les pronoms de genre qui ne signifient ni « il » ni « elle » par exemple, la condamnation des termes insultants ou dévalorisants. Vous n'en trouverez pas moins déconcertant que les Oum Helatiens aient choisi de continuer à s'appliquer des qualificatifs tels que « crépus »,« gros » ou « sourd ». Mais ce ne sont que des mots, mon ami. Vous ne le comprenez donc pas ? Sans le mépris qui s'y attache, ils n'ont pas plus de sens que si les chevaux pouvaient fièrement se présenter en personne comme des palominos, des percherons ou des chevaux miniatures. La différence n'a jamais posé de problème en elle-même, ni par elle-même. Et les Oum Helatiens entretiennent toujours des différences, d'opinion par exemple. Ils entretiennent évidemment des différences. Ce sont des gens. Si les jeunes citoyens sont sidérés, c'est de découvrir que ces différences d'opinion impliquaient à une époque des différences de respect. Que certains étaient à une époque jugés valables et d'autres non. Que certains étaient considérés comme humains et d'autres non. C'est la fête des bons oiseaux à Oum Helat, où toute âme compte et où la seule idée qu'il puisse en aller différemment de certaines est frappée d'anathème. Voilà pourquoi les travailleurs sociaux se réunissent. Quelqu'un a brisé la barrière entre les mondes. Un citoyen d'Oum Helat a écouté notre radio grâce à un équipement que vous ne reconnaîtriez pas, mais qui enregistre les perturbations quantiques infimes excitées par les longueurs d'onde du signal. Il a regardé notre télévision, il a suivi nos médias sociaux, lancé nos vidéos, liké nos selfies. Nous sommes remarquablement primitifs comparés aux Umhelatiens. Le temps passe de la même manière dans les deux univers, mais là-bas, les gens ne se sont pas gaspillés à écraser leurs semblables pour les soumettre, ce qui fait une différence remarquable. N'importe qui y est donc capable de construire une machine à traverser les mondes, comme nous construisons une radio amateur. Facile. Voilà pourquoi il existe à Umhelat toute une industrie clandestine. Ah, le crime, là, vous y croyez un peu plus. Basé sur l'information glanée dans le monde étranger surprenant qui est le nôtre. On écrit et on distribue des pamphlets. On échange des murmures et de l'art. L'interdit est tellement séduisant, pas vrai? Y compris dans un univers où on ne qualifie de mal que ce qui fait du mal à autrui. Les glaneurs d'informations savent qu'ils se livrent à une activité nuisible. Ils savent que c'est ce qui a détruit les cités d'antan. Et, à vrai dire, ce qu'ils entendent par les haut-parleurs et voient par les écrans les horrifie. Ils prennent peu à peu conscience que notre monde a laissé s'enraciner une notion qui a grandi jusqu'à gauchir et fissurer les fondations de notre humanité. Certains humains comptent moins que les autres. Comment peuvent-ils, s'exclament-ils en parlant de nous, pourquoi font-ils des choses pareilles? Comment peuvent-ils laisser des gens mourir de faim? Pourquoi n'écoutent-ils pas ceux qui se plaignent de ne pas être respectés? Et eux, là, ils ont été attaqués et personne ne s'en occupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui traite autrui comme ça? Mais si secoué soit-il, il partage l'idée. Le mal se répand. Aussi, les travailleurs sociaux d'Umhelat discutent-ils maintenant au-dessus d'un corps? L'homme est mort précocement, contre sa volonté. Une piqûre de belle facture plantée dans la colonne vertébrale et le cœur. La colonne vertébrale pour lui éviter de souffrir, le cœur pour que la fin soit rapide. Les travailleurs sociaux disposent d'autres armes, mais leur préfèrent la pique, silencieuse. Il n'y a eu ni coup de feu, ni ricochet, ni crépitement, ni grésillement, ni hurlement. Personne ne viendra donc voir de quoi il retourne. La maladie a pris une malheureuse victime, mais n'en fera pas nécessairement davantage. Ainsi, la contagion est-elle maîtrisée? Un moment. Près du corps est accroupie une fillette, les cheveux bouclés, dodus, aveugle, brune, grande pour son âge. Une enfant en général turbulente, qui pleure à présent la mort de son père à larmes brûlantes, parce que ce n'est pas juste. Il a dit « Je regrette, elle l'a entendu ». Les travailleurs sociaux ont fait preuve de la seule compassion possible, elle l'a entendu. Mais elle est trop jeune pour avoir été informée des conséquences encourues par qui contreviendrait à la loi, ou pour comprendre que son père les connaissait et les acceptait. En ce qui la concerne, ce qui s'est passé n'a ni rime ni raison. C'est un événement dépourvu de sens, monstrueux, impossible. On appelle ça un meurtre. « Je vous retrouverai, » dit-elle entre ses sanglots. « Je vous ferai mourir comme vous l'avez fait mourir. » Il est impensable de dire une chose pareille. Nous avons là un gros problème. « Comment osez-vous » gronde-t-elle. « Comment osez-vous » Les travailleurs sociaux échangent des regards inquiets. Ils sont eux-mêmes contaminés, bien sûr. C'est permis et honnêtement inévitable dans leur profession. On ne peut pas barrer la route à une inondation sans se mouiller. Des mesures ont été prises, les clous qui leur percent le cuir chevelu. Bon, dans notre monde, les gens qui se portaient volontaires pour travailler dans les colonies de lépreux étaient autrefois révérés et emprisonnés avec les malades. Les travailleurs sociaux savent donc que, pour quelque raison incompréhensible, le père de la fillette a partagé avec elle la connaissance empoisonnée de notre monde. Passé l'horreur et le choc initiaux, un habitant non contaminé d'Umhelat demanderait « Pourquoi ?» persuadé que cette horreur a une raison. Elle aurait une raison. La petite aveugle, elle, a déjà décidé que les travailleurs sociaux comptent moins que son père. Peu lui importe la raison. À ses yeux, la cité tout entière compte moins que l'égoïsme d'un seul homme. Pauvre enfant, presque infecté par notre monde. Presque. C'est alors qu'une travailleuse sociale, la grande brune qui a fait sourire une centaine d'inconnus devant une coccinelle artisanale, s'accroupit et la prend par la main. Quoi ? Vous êtes surpris ? Vous pensiez que cette histoire allait s'achever par le meurtre de sang-froid d'une enfant ? Il existe d'autres options. Et nous sommes à Umhelat, mon ami, où compte jusqu'à une pitoyable petite infirme. Ils vont la placer en quarantaine et venir la voir plusieurs jours d'affilée. Si elle accepte la main tendue, si elle les écoute, ils essaieront de lui expliquer pourquoi son père devait mourir. Elle est bien jeune pour se voir dispenser une telle connaissance, mais il faut faire quelque chose, comprenez-vous ? Ensuite, ils enterreront le corps avec elle, de leurs mains s'il le faut, dans le beau jardin qu'ils entretiennent entre deux dossiers sociaux. Un jardin qui abrite tous les Umhelatiens ayant contrevenu à la loi. Ce n'est pas parce que leur mort est nécessaire, aux fins de dissuasion, que leur sacrifice ne mérite pas d'être célébré. Il n'existe hélas qu'un traitement possible une fois la toxine infiltrée dans le sang. La combattre bec et ongles, pieds et poings, au contact brutalement. Pas de quartier, de promesses, de discussions. L'enfant doit grandir, apprendre, devenir travailleuse sociale et s'engager dans la guerre sans fin, livrée à une idée. Mais elle vivra, elle aidera autrui, elle trouvera un sens à cela. Si elle prend la main offerte. Les choses fonctionnent-elles enfin pour vous, mon ami ? La possibilité d'une exécution brutale ajoute-t-elle à l'ensemble assez de réalisme ? Êtes-vous capable d'accepter cette utopie post-coloniale maintenant que vous distinguez ces crocs sanglants ? Oh, ce ne sont pas les Umhelatiens d'aujourd'hui qui ont décidé de mener ce combat. Leurs ancêtres ont choisi, en tissant des mensonges et en oubliant leur conscience, afin de profiter des souffrances d'autrui. Leur avidité était devenue philosophie, religion, succession de nations. Tout cela bâti sur du sang. Umhelat a décidé de faire mieux. Mais doit-elle aussi consentir des sacrifices de sang pour tenir en respect un mal réel ? Et nous en arrivons à vous, mon ami, mon petit soldat. Vous voyez ce que j'ai fait ? Elles sont si insidieuses, les pensées minuscules qui arpentent le chemin quantique. Peut-être maintenant penserez-vous à Umhelat en espérant. Peut-être maintenant arriverez-vous à vous représenter un univers où les gens ont appris à aimer, comme ils ont appris dans le nôtre à haïr. Peut-être parlerez-vous d'Umhelat à d'autres et répandrez-vous davantage encore cette notion. Joyeux oiseau migrateur porté par les alizés, c'est possible. Tout le monde, y compris le pauvre, le paresseux, l'indésirable, oui. Tout le monde peut avoir de l'importance. Vous voyez ? Certains deviennent véritablement enragés à cette seule idée. L'infection se défend. Car si nous sommes assez nombreux à croire en quelque chose, ce quelque chose devient possible. Et alors, qui sait ? La guerre, peut-être ? Le feu de la fièvre et le fléau purificateur ? Nul ne souhaite une chose pareille, mais la seule alternative est de rester impuissant. Couvert de furoncles et de cloques, pantelant jusqu'à notre mort à tous. Alors ne partez pas. L'enfant a besoin de vous, elle aussi, ne le voyez-vous pas ? Il faut vous battre pour elle, maintenant que vous avez conscience de son existence. Ou partir n'aura aucun sens. Regardez, je vous tends la main. Prenez-la, je vous en prie. Bien. Très bien. Allez, au travail.
C'était la rentrée de Vortex et Rotative sur Campus Grenoble et Radio Dragon. Vous venez d'entendre la nouvelle « Ceux qui restent et qui luttent » de N.K. Jemisin, extrait du recueil « Lumière noire » paru aux éditions Nouveau Millénaire en 2018.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative sur Radio Dragon et Campus Grenoble.